Choa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Abdourahmane Dia avec vous pour cette édition du Monde aujourd'hui. Au sommaire, en République centrafricaine, les soldats de la MINUSCA ont chassé les rebelles des 3R de la ville de Bokaranga. Les Libériens seront demain aux urnes pour choisir le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf à la tête du pays. Nouvelle manifestation de l'opposition kényane pour réclamer des réformes avant les élections du 26 octobre. Ici aux États-Unis, le président américain demande un durcissement de la politique d'immigration en échange d'un accord sur les mineurs arrivés illégalement dans le pays. Et ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. En République centrafricaine, la ville de Bokaranga, dans le nord-ouest, libérée par la MINUSCA. Les casques bleus ont repris le contrôle aux hommes armés des 3R à la suite d'un raid lancé samedi dernier. L'opération se poursuit, mais aucun bilan n'est encore disponible. Les détails avec Freeman Sipila.
L'offensive de la MINUSCA est intervenue 3 jours après l'expiration d'un ultimatum de 72 heures lancé au général Abbas Siddiqui et son groupe 3R pour quitter la ville assiégée durant 3 semaines. La force onusienne a engagé d'importants moyens, y compris des hélicoptères de combat. Selon Vladimir Monteiro, porte-parole de la mission de l'ONU, Bokaranga est entièrement sous contrôle des casques bleus et l'opération devra se poursuivre jusqu'à Bong, une autre localité contrôlée par les hommes du général Bahar de l'ex-Séléka.
Les premiers objectifs ont été atteints, c'est-à-dire le départ des éléments armés. Il faut s'assurer que ceux qui sont partis ne reviennent pas, prendre des dispositions, contrôler les endroits, ce qui est déjà le cas. Et se poursuit par rapport également à Bong qui faisait partie, tout comme Bokaranga, des objectifs de cette mission.
Pour l'instant, aucun bilan n'est encore disponible. Entre-temps, des scènes de pillage à grande échelle ont été rapportées. Des maisons de particuliers, y compris des ONG locales, ont été systématiquement pillées par les assaillants avant d'être délogées. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Un casque bleu a été tué dans l'attaque d'une base des Nations Unies dans l'est de la République démocratique du Congo. La MONUSCO accuse le groupe ougandais des ADF d'être à l'origine de cette attaque, qui a également fait 12 blessés parmi les casques bleus. Elle est survenue dans le territoire de Beni, dans le Nord Kivu. Les premiers grands procès à huis clos de plus de 2000 membres présumés de Boko Haram ont démarré au Nigeria, dans des centres militaires. Les suspects ont tous été arrêtés et mis en détention depuis le début de l'insurrection islamiste en 2009, qui a fait plus de 20 000 morts et 2,5 millions de déplacés selon l'ONU et des ONG. Toujours au Nigeria, au moins 10 personnes ont été tuées par des hommes qui ont tiré dans un marché de Port Harcourt, ville pétrolière du sud-est du pays. L'état de Rivers est souvent le théâtre de crimes violents, notamment d'affrontements entre bandes armées rivales et d'enlèvements contre rançon. Fin de la campagne électorale au Libéria, où les électeurs doivent choisir demain un successeur à la présidente Ellen Johnson Sirleaf, qui ne peut plus se représenter après 2 mandats de 6 ans. Les explications de Nathalie Barche.
Pendant les derniers jours de campagne, les plus grandes foules ont été mobilisées par le sénateur et ancien footballeur George Weah et sa colistière Jewel Owa Taylor, ex-épouse de l'ancien président Charles Taylor. Sur les 20 candidats en lice, d'autres se détachent, dont l'ex-ministre Charles Brunskein, le vice-président sortant Joseph Boakai et l'homme d'affaires à la retraite Alexander Cummings. Il faut noter la présence de l'ex-chef de milice Prince Johnson, aujourd'hui sénateur, qui a assassiné le président Samuel Doe en 1990. Le mania des télécoms, Benoni Urey, est aussi dans la course, tout comme l'unique femme à se présenter, Magdela Cooper, ancien mannequin. 73 membres de la Chambre des représentants seront également élus mardi. Ce scrutin sera le premier à se tenir sans le soutien des casques bleus.
Au Kenya, des milliers de partisans de l'opposition ont une nouvelle fois manifesté pour réclamer des réformes en amont de l'élection présidentielle du 26 octobre, après invalidation du scrutin du 8 août dernier. Jacques Aristide.
Le rassemblement le plus important a réuni, d'après l'AFP, quelque 3000 personnes à Kisumu, un des bastions du leader de l'opposition dans l'ouest du Kenya. Il s'est dans un premier temps déroulé dans le calme, puis la police est intervenue utilisant du gaz lacrymogène. À Nairobi, environ 2000 personnes se sont mobilisées dans un parc où plusieurs leaders de la coalition NASA se sont relayés pour réclamer de nouveau un remaniement en profondeur de la commission électorale. Toutefois, pas de grande manifestation à Mombasa où se trouvait le président Uhuru Kenyatta en pleine campagne. L'opposition estime inutile de battre à campagne pour une élection qu'elle menace de boycotter si ses revendications ne sont pas satisfaites. Par ailleurs, dans un rapport publié ce lundi, la Commission nationale kényane des droits de l'homme indique que la police kényane a tué 35 des 37 personnes mortes dans les violences qui ont suivi la présidentielle du 8 août, dénonçant un usage excessif de la force. La commission ajoute n'être pas en mesure de déterminer si cet usage était prémédité et ciblé, mais que son analyse montre clairement que la majorité des victimes appartiennent à la même ethnie et viennent de bidonvilles.
À Madagascar, 5 détenus présentés comme dangereux ont profité d'une panne d'électricité pour s'évader d'une prison de haute sécurité. L'évasion a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche dans un centre pénitentiaire qui héberge plus d'un millier de prisonniers pour une capacité d'à peine 350 places. Au moins 8 migrants sont morts après le naufrage de leur embarcation qui a heurté un navire militaire tunisien. La marine tunisienne a repêché 38 rescapés, tous tunisiens. Les opérations de sauvetage sont toujours en cours pour retrouver des disparus, a indiqué un porte-parole de la marine tunisienne. En Namibie, une centaine d'hippopotames ont été retrouvés morts dans une rivière d'un parc national. La maladie du charbon pourrait être la cause de ces morts, selon le ministère de l'Environnement. La maladie du charbon est une maladie bactérienne généralement associée au climat aride et selon les officiels, le bilan pourrait s'alourdir. La même maladie a récemment décimé les chimpanzés d'un parc national en Côte d'Ivoire.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, durcissement du temps du président Donald Trump sur le dossier de l'immigration. Dans un document adressé au Congrès, l'exécutif américain pose des conditions pour une réforme de l'immigration qui éloigne les perspectives d'un compromis avec les démocrates. Arzuma Compaoré.
Une réforme de l'immigration doit créer plus d'emplois, des salaires plus élevés et plus de sécurité pour les Américains, a décrit Donald Trump dans une lettre au Congrès. Le financement du mur à la frontière avec le Mexique, l'accélération des procédures de renvoi des mineurs arrivant à la frontière, l'augmentation des effectifs des agents d'immigration ou encore la suppression de la loterie Green Card sont autant de mesures prévues par sa réforme. Le président Trump a déjà supprimé le programme DACA qui a permis de donner des papiers temporaires à des clandestins arrivés aux États-Unis avant l'âge de 16 ans. Par ailleurs, le patron de la Maison-Blanche propose une réforme du système des permis de résident permanent. Les fameuses cartes vertes devront désormais être basées sur un système de points. Tous ces principes et priorités énoncées par l'administration Trump seront le point de départ d'après négociations au Congrès où très certainement la minorité démocrate fera de la résistance.
L'Iran respecte pleinement ses engagements dans le cadre de l'accord nucléaire conclu avec les grandes puissances en 2015. C'est l'avis du patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Yakima Amano. La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a rappelé de son côté que le respect par l'Iran de ses engagements avait déjà été vérifié à 8 reprises. Le président américain Donald Trump, qui juge que l'Iran ne respecte pas l'esprit de l'accord nucléaire, devrait annoncer prochainement qu'il n'allait pas le certifier. La Turquie demande aux États-Unis d'annuler leur décision de suspendre la délivrance des visas. Ankara a convoqué le numéro 2 de l'ambassade des États-Unis, estimant que la décision de Washington ouvrait la voie à une escalade inutile. Les États-Unis ont pris cette décision quelques jours après l'arrestation d'un employé turc du consulat américain à Istanbul sur des accusations d'espionnage. Le prix Nobel d'économie a été attribué à l'Américain Richard Thaler, père de la méthode dite du coup de pouce. Cette méthode est censée corriger les comportements irrationnels des consommateurs, contribuables ou investisseurs. Professeur à l'Université de Chicago, Richard Thaler, 72 ans, s'est spécialisé dans l'analyse des comportements économiques. Les Serbes ont réagi avec colère à l'acquittement ce lundi du chef de guerre bosniaque Nazer Horić, jugé pour crime de guerre lorsqu'il dirigeait la défense de l'enclave musulmane de Srebrenica. Nazer Horić, 50 ans, et son frère d'armes de 49 ans ont été déclarés innocents de l'arrivée de trois prisonniers serbes autour de Srebrenica pendant que le conflit se tenait dans l'ex-Yougoslavie. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est tout de suite dans la Minute Éco présentée par Jacques Aristide.
Le Congo-Brazzaville veut renégocier avec ses créanciers les termes de sa dette, estimée à 110% par le Fonds monétaire international. Un tel programme a déjà été conclu avec d'autres pays d'Afrique centrale, frappés par la chute des prix du pétrole. Le FMI a ainsi accordé en juin un prêt de 642 millions de dollars au Gabon. La dette du Congo est évaluée à 5 329 milliards de francs CFA, sans les dettes litigieuses ni les arriérés intérieurs accumulés depuis 2014. Le FMI avait confirmé début août que le Congo avait caché une partie de sa dette. L'entreprise Bouygues Énergie et Services annonce la fin de ses activités au Gabon après environ 70 ans de présence. La décision a suscité l'incompréhension et la colère des 223 employés. La compagnie affirme qu'ils recevront jusqu'à 18 mois de salaire en fonction de l'ancienneté. Le syndicat a dénoncé le caractère inhumain de cette décision alors que les Gabonais ne bénéficient pas d'allocation chômage. Le groupe Bouygues conserve deux autres filiales dans le pays, notamment dans le bâtiment et travaux publics. Le Soudan espère que la levée de certaines sanctions américaines à partir du 12 octobre permettra de mettre fin à son isolement des marchés internationaux. Le pays est confronté depuis des années à des déficits budgétaires à répétition et à une forte inflation. L'embargo économique a été imposé par Washington depuis 1997 pour le soutien présumé de Khartoum à des groupes islamistes.
À présent, la page de sport avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
L'Égypte et le Nigeria sont les premiers pays africains qualifiés pour le Mondial 2018.
Tout à fait, dans un stade de bord El Arab à guichet fermé, 86 000 spectateurs. Les pharaons ont validé leur bien dominant le Congo 2-1, doublé de Mohamed Salah au terme d'un scénario fou. Le but libérateur est intervenu à la 95e minute. Avec 4 points d'avance sur son dauphin, l'Ouganda, le vice-champion d'Afrique en titre ne peut plus être rejoint. Les pharaons joueront leur troisième phase finale de Coupe du Monde après 1934 et 1990. Bien avant, les Sapper Eagles du Nigeria ont obtenu leur ticket samedi devant les Chipolo Polo de la Zambie grâce à un but d'Alex Iobi. Score final 1-0, ce sera la 6e Coupe du Monde pour le Nigeria.
De leur côté, la Tunisie et le Maroc y sont presque.
Oui, il ne manque plus qu'un seul point aux Aigles de Carthage pour se rendre en Russie. La Tunisie a dominé la Guinée 4-1 avec un triplé de Youssef M'Sakni. À un match de la fin, les Tunisiens conservent donc 3 points d'avance sur la RDC qui a battu la Libye 2-1. Après le boulevard laissé par la Côte d'Ivoire tenu en échec au Mali 0-0 vendredi, les Lions de l'Atlas, eux, ont surclassé le Gabon 3-0 samedi pour s'emparer des commandes du groupe C avec un point d'avance sur les éléphants. Voilà qui entrevoit une finale à Abidjan face au Maroc pour la dernière journée. Le sélectionneur des éléphants, Marc Villemotte, compte la jouer à fond.
Le positif, c'est qu'on a pris un point ici. Je crois que beaucoup d'équipes ne prendront pas de points ici. Donc ça veut dire que nous, on l'a pris au caractère, au courage, parce qu'on voulait absolument avoir une finale à Abidjan avec un stade qui sera, j'espère, hyper comble et que tout le monde viendra nous soutenir.
Marc Villemotte au micro de Siaka Traoré pour VOA Afrique.
Le Sénégal, lui, a réalisé une bonne affaire à Praia.
Les Lions de la Teranga ont arraché la victoire au Cap-Vert 2-0 et prennent la tête du groupe D en attendant la double confrontation contre l'Afrique du Sud, 6e journée et match à rejouer. Diafra Sakho et Cheikh Ndoye ont permis au Sénégal de prendre 2 points d'avance sur le Burkina Faso, surclassé 3-1 par l'Afrique du Sud. Grosse désillusion pour les étalons qui refusent tout de même d'abdiquer, comme le fait savoir le capitaine Charles Kabouri.
C'est de la faute de tout le monde, la défaite, et on est tous responsables. Le prochain match, on va se rattraper. On va espérer jusqu'au bout, garder espoir, souhaiter à tout le monde de rentrer dans le club et se préparer bien pour le dernier match au Burkina.
Charles Kabouri au micro de Zoumana Wonogo pour VOA Afrique.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Les Libériens choisissent ce mardi un successeur à la présidente Ellen Johnson Sirleaf. Parmi les 20 candidats dans la course, le vice-président sortant Joseph Boakye et le légendaire footballeur George Weah. Le reportage de Bram Postumus présenté par Lionel Gaïma.
L'hymne de campagne du parti au pouvoir est on ne peut plus clair. Il ne peut y avoir qu'un vainqueur mardi et c'est nous, chantent ces militants du parti de l'unité. Rosa là-bas, une militante, déborde d'enthousiasme.
Nous avons besoin de quelqu'un à même de prendre sa relève et continuer.
Une allusion à la présidente sortante, Ellen Johnson Sirleaf. Pour les militants du Parti de l'Unité, nul ne mieux placé pour lui succéder que son vice-président Joseph Boakye. Réservé, il n'a jamais été accusé de corruption et joue d'une bonne réputation. Sa candidature ne fait pas pour autant l'unanimité dans le pays. Le pasteur Ibrahim Ko plaide pour l'alternance.
Je suis pour la continuité, mais dans un sens différent.
Ce parti nous a servi pendant 12 ans, donc l'heure est venue de changer. Dit changement au Libéria et le regard se tourne vers l'immense quartier général de campagne de George Weah. Légende du football et sénateur de Montserrado, il a brigué la présidence à deux reprises et pense que la troisième fois sera la bonne. Sa militante, Cécilia Moi, est très convaincue.
Je vote pour lui pour l'avenir. Il fera quelque chose de bon pour le Libéria.
Parmi les grands besoins du pays, la remise en état d'un système de santé délabré et dont les lacunes ont été visibles durant l'épidémie d'Ebola qui a pris fin il y a un peu plus d'un an. Les secteurs de l'éducation et des infrastructures routières nécessitent de grands investissements. La commission électorale en a fait la meilleure expérience dans l'acheminement du matériel électoral dans le coin reculé. Les résultats provisoires attendus cette semaine permettront de déterminer s'il y aura un second tour. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
En Guinée, plusieurs marques de vêtements ont fait leur apparition sur le marché grâce à la maîtrise des logiciels informatiques. Mais pour la plupart, l'impression se fait avec de petits moyens. Ce sont des t-shirts et des casquettes qui portent différents noms et sont proposés. Mais le succès n'est pas toujours au rendez-vous. Zakaria Kamara.
Bienvenue déjà sur Touquet du Nikoté, la toute nouvelle marque de vêtements.
Cabinet Diawara est l'un des jeunes Guinéens à avoir lancé une marque de vêtements avec des moyens limités.
Certes, on n'a pas beaucoup d'équipement, mais on a une machine qu'on appelle la machine de presse. Ici, on n'a pas tout ce qu'il faut pour travailler sur la marque, telle que la broderie et tout ça.
Tout qui est dit souvent en ligne, la marque que portent les Guinéens est le fruit d'une histoire d'amour, celui d'un fils pour sa maman.
Et communément, on l'appelle Maman Kadi, sinon c'est Kadiatou Diani, son nom, et moi c'est Kabine Diawara, donc voilà, ça fait Kadiatou Diani, ça fait Kadé, et Kabine Diawara aussi, ça fait Kadé. L'appellation Tout est dit est nettement mieux que deux Kadé.
Daouda Sissi est responsable des productions de RJV, l'une des premières marques Made in Guinée. Ici, comme avec de nombreux noms des marques de vêtements, l'envie de vendre la Guinée a pesé.
Étant donné qu'on est Guinéen, donc on est tous patriotes, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on crée une marque. une marque parce qu'on a vu nos voisins de l'extérieur, c'est-à-dire nos voisins qui ont créé une marque similaire. RGV, ça veut dire rouge, jaune, vert. C'était le drapeau guinéen.
En Guinée, créer sa marque de vêtements est facile, mais la vendre n'est pas de tout repos.
C'est toujours pas facile, hein, je peux vous dire. Surtout en Afrique, créer ce genre de projet-là, ça demande beaucoup, beaucoup de moyens. Et jusqu'à présent, on en demande. RGV prend de l'ampleur au moment où il y a la CAN, c'est-à-dire les éliminatoires de la CAN ou bien les compétitions de la CAN.
Portée de Made in Guinée, l'idée passe plutôt bien chez les jeunes.
C'est l'image de la Guinée qui passe. Donc moi je pense que c'est une très belle idée que quand on porte des vêtements comme ça. Là-bas. Je crois que c'est une belle initiative qui doit être encouragée. Si les autres pays le font, pourquoi pas la Guinée? Et puis ça donne de l'emploi à la jeunesse.
La plupart des marques sont imprimées sur des t-shirts et des casquettes, mais elles ne sont pas connues du grand public. Il faudra attendre encore et encore avant de voir le grand succès de Made in Guinée. Conakry, Zakaria Camara, pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
En République démocratique du Congo, popularité grandissante des produits aphrodisiaques à Goma, capitale du Nord Kivu, d'autant que leurs prix sont très abordables selon notre correspondant sur place. Toutefois, des spécialistes mettent en garde contre leur consommation abusive. De Goma, la correspondance de Charlie Kasereka.
C'est devenu les produits faciles à trouver dans presque tous les kiosques au quartier, les grands marchés, les carrefours et les longs des avenues. À la tombée de la soirée, ce sont des vendeurs ambulants qui circulent dans presque tous les coins où l'on va la bière à la recherche des potentiels clients et tout le monde a son choix, soit de les consommer naturels ou déjà traités.
Soit du gingembre mélangé avec du miel. Donc nous savons très bien que quand une femme est infidèle, la première cause, c'est d'abord le fait qu'elle n'arrive pas à être satisfaite par son mari. Et que donc si on a un remède, et que sur ce stimulant, c'est un aphrodisiaque, et que nous, il faut le consommer pour satisfaire sa femme, pourquoi ne pas le faire? Nous le faisons tous.
J'ai au moins une certaine mesure d'équilibre lorsque je prends ces boissons, parce que je sais que si je prends beaucoup, j'aurai en moi des sentiments qui peuvent me pousser à aller prendre même une fille par force.
Certains vendeurs au marché central de Goma, comme le long des routes, estiment que les produits sont de plus en plus recherchés pour leur efficacité.
Ces derniers temps, il y a de fortes demandes. Par exemple, ceci, c'est pour rétablir dans 14 jours la puissance sexuelle perdue. Avec ce commerce, je nourris très bien ma famille.
Des produits aux effets miracles, des consommateurs connaissent bien les conséquences, mais difficile d'abandonner. Question pour eux de rester toujours efficaces.
Au-delà d'aller à la pharmacie, nous avons des trucs un petit peu naturels. Et moi, je me dis, s'il faut qu'on y démarre, ça pourrait un jour décevoir.
Une habitude qui suscite des questionnements. Le plus âgé pense que les gènes devraient rester naturels au lieu de se précipiter à une impuissance sexuelle dans les prochaines années, surtout pour leur vie de couple.
Personnellement, je n'ai jamais, mais je vois des jeunes qui les utilisent. Ils se vantent et ils disent que grâce à ces produits, ils parviennent à satisfaire leurs besoins sexuels. Mais pour moi, c'est un produit qui a déconseillé.
Les sexologues à la clinique Simak de Goma, Dr Ndabo pense que les jeunes jouent aujourd'hui avec le feu en utilisant ces aphrodisiaques pour maintenir très longtemps leur libido et les conséquences sont énormes.
Et donc il est aussi important de savoir que ces médicaments, on ne connaît pas ni leur posologie, qui s'entraîne le plus souvent la mort subite chez les personnes pendant les rapports sexuels, l'hypertension par rapport aux maladies rénales, donc une génération serait totalement sacrifiée. C'est vraiment quelque chose qu'on doit décourager.
Ces plantes et racines, comme aussi le jus, réputé pour les vertus aphrodisiaques se font leur temps et restent très bien consommés par des adultes, des jeunes, comme aussi les adolescents. Charlie Kasereka, depuis Goma, pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma, en RDC, sur 96.2 FM.
Aller s'installer aux États-Unis grâce à une carte de résident permanent obtenue via la loterie américaine, c'est un rêve pour de nombreux jeunes Camerounais, nous dit notre correspondant sur place. L'option attire, mais divise aussi l'opinion. Malgré tout, l'engouement reste grand après l'ouverture des inscriptions gratuites en ligne pour la Green Card 2019. Surtout en milieu universitaire où l'opération est une aubaine pour des jeunes très entreprenants. Reportage de notre correspondant Emmanuel Jultap.
L'ouverture de la loterie pour la carte verte 2019 aux États-Unis a une nouvelle fois changé le vécu quotidien de César, un étudiant en master 2 biochimie à l'université de Yaoundé 1. En plein air, le jeune homme se fait plein les poches avec son ordinateur.
Je suis à ma troisième expérience. Je suis en train de chercher de l'argent, évidemment. J'ai aidé les gens à se faire inscrire à la loterie américaine. J'ai associé à cela les demi-cartes de photo.
Parle-t-il anglais?
Pratiquement, non.
Sont-ils informés des conditionnalités?
Naturellement. Le souci principal, c'est d'arriver aux États-Unis.
Ces services coûtent 1 000 francs par personne inscrite. Dans cette zone universitaire, la loterie américaine inaugure toujours une période de vache grasse pour les tenanciers des cybercafés conventionnels. Franck est l'un d'eux.
Comme on a des fiches à remplir, le 3, mais avant 19h, on a eu un nombre exorbitant de personnes qui voulaient s'enregistrer avant l'inscription en elle-même.
Le rêve américain au bout de la chance attire surtout les jeunes Camerounais, sans oublier de nombreux sans-emploi, parfois aux abois.
Les conditions du Cameroun, proprement dit, ne sont pas favorables. Tu as un doctorat peut-être, mais tu n'as pas de travail.
C'est votre cas, madame?
Oui, bien sûr.
Je suis étudiant en marketing. Mon intérêt, c'est aller aux États-Unis, le pays des rêves.
C'est la sanction, pas comme vous
La troisième fois.
Certes, la Green Card a déjà fait quelques heureux dans des familles camerounaises, mais l'initiative est loin d'être perçue par tous comme une panacée.
Moi, je ne vais pas jouer à la loterie américaine. Pourquoi faire? Peut-être immigré, c'est un nom péjoratif. Si tu es paresseux ici, tout va être paresseux là-bas.
Et les réalités qu'on fuit ici peuvent être les mêmes qu'on va retrouver devant. Tant qu'on n'a pas épuisé toutes les ressources, on ne devrait pas baisser les bras.
Sur la page Facebook de l'ambassade des États-Unis à Yaoundé, le vice-consul Eric Elliott invite les candidats à la Green Card à la vigilance face aux arnaqueurs. Une mise en garde qui n'a tenu pas les vives appréhensions de Amélie James-Kobela, expert consultante en migration, vis-à-vis du phénomène d'immigration, qu'il soit régulier ou irrégulier.
C'est entre 3 millions et 7 millions pour partir. Il faut les sortir. Les gens vendent les terrains, ils vendent les sociétés, ils vendent les salons. Il faut envoyer un message à l'État. Les politiques doivent être réel envers la jeunesse. Je n'ai jamais vu une campagne avec des affiches où on dit aux jeunes, allez à tel endroit, il y a de l'argent pour faire des projets. Le jeune au Cameroun doit maintenant savoir qu'on se préoccupe de sa cause. Mais que les jeunes bougent aussi, ils dorment trop. Ils vont sur Internet, ils veulent seulement partir.
Yaoundé, Emmanuel Jumta, VOA Afrique.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, dans Universel. Au menu, le Top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Brothers got that gas and they always be smoking like a Rasta. When we call up on no and show up, man, them that shot toss. When my homies pull up on your block, they make that tango grata ta ta. Switch my whip, came back in black, I'm starting saying rest in peace to Von Scott. Close that door, we blowing smoke, she asked me light a fire like a monster. Fool on stage, probably leave my control in a cop car. Ay. It was legendary through a TV out the window of the montage. On the table, look at porn, don't give a damn. Don't choke up in his local BC, just trying to get in. Saying I'm with the band. Ay, ay. Nice be acting out of pocket, trying to grab up on my pants. On that money, then my trellis said I ain't got a man.
I've been
I've been popping, popping, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. When we call up on no, you show up in them the shot time.
Voilà, c'est sur ce titre de Post Malone featuring 21 Savage qu'on se quitte. Merci d'avoir suivi cette édition réalisée par Lionel Gaïma, présentation Abdulrahman Diar. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité en continu. Dans quelques secondes, le point sur l'actualité avec Henri Francisque.